Nous
Je peux
remercions
plus dire
beaucoup Pascal Horry de bien
Ah,
vouloir
c'est
venir dans nos modestes murs pour la troisième fois. La première fois, il nous a parlé du Front populaire inventeur de la politique culturelle. La seconde fois, de 20 siècles de judéophobie. Pourquoi, comment, jusqu'où? Plein de points d'interrogation. Et ben, je vais vous laisser présenter vous-même le sujet de votre intervention d'aujourd'hui. Et merci encore mille fois de venir.
merci pour votre triple accueil. Ça, on voit que je n'ai pas été découragé.
Non.
Et vous non plus. D'ailleurs, les deux premières interventions correspondaient d'abord à un travail de longue haleine sur l'histoire des politiques culturelles et en particulier celle du Front populaire, qui avait fait l'objet d'une publication, une grosse thèse, comme on en faisait à l'époque, puisqu'on est dans une ambiance un peu Deuxième République, etc. Ma thèse mesurait 1848 pages. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, j'aurais dû gonfler un petit peu les annexes pour que ça fasse 1936 pages. Peut-être que le jury n'aurait pas. Ça fait quand même un gros livre de plus de 1000 pages. Et puis la seconde intervention est plus récente, puisqu'elle correspond à un livre qui s'appelle De la haine du juif, qui fait l'objet d'un retirage de la part de l'éditeur, comme vous l'imaginez. On pourra dire hélas. Hélas. Et ce que je vous proposais ce soir, c'est de revenir sur un livre qui a été édité l'année dernière, ça me paraît déjà très loin, et en fait c'est encore l'année dernière, mars 2022, et qui présente la caractéristique d'être un ouvrage des éditions, qui au départ était une collection, mais qui sont devenues il y a 2 ans une maison d'édition, liée à Robert Laffont, mais en tous les cas autonome maintenant, c'est ce qu'on appelle un bouquin, la collection de
Ouais.
bouquins. Voilà, oui, c'était ça pèse d'ailleurs. Et exact inverse, hein, c'est-à-dire un tract de Gallimard, vous connaissez peut-être les tracts de Gallimard, celui-ci fait combien de pages? Fait 39 pages. Oui. Bon. Mais il a un rapport avec ce que je voulais vous dire ce soir. Donc cet ouvrage, en tant que volume de la collection bouquins, réunit des textes déjà publiés. C'est une des variantes de la collection bouquins, d'être une anthologie. Et l'éditeur Jean-Luc Barré m'avait demandé, j'avais carte blanche, de réunir des textes qui auraient un lien entre eux. Alors, j'avais envisagé dans un premier temps, ça prolongerait ma première intervention ici, des textes sur l'histoire culturelle, l'histoire des politiques culturelles. Mais pour être clair, je suis quand même depuis quelque temps mobilisé sur le terrain de l'histoire politique. J'ai essayé de travailler d'ailleurs au croisement des deux, parce que l'histoire des politiques culturelles, c'est le croisement du politique et du culturel. Donc j'ai fait l'option de l'histoire politique, bon, au sens large, et je me suis dit qu'on pouvait réunir à ce moment-là 4 livres déjà parus, auxquels j'ai ajouté pour faire bon poids 6 petits textes plus courts et d'ailleurs dans l'ensemble plus récents. Donc 4 livres déjà parus. Et j'ai mis en tête, parce que je n'ai pas pris l'ordre exactement chronologique, mais un ordre logique par rapport à mon propos réuni sous la formule ce côté obscur du peuple, j'ai mis en tête peuple souverain, au singulier. Peuple souverain, qui était, pour le dire vite, j'y reviendrai, une analyse historique et politologique du populisme, entre guillemets. Je préférais partir de ça, et ensuite reprendre sous le titre 12 leçons sur le fascisme, un livre qui était paru antérieurement aussi, donc, mais sous le titre du fascisme. Mais à vrai dire, j'avais à l'époque pensé proposer à l'éditeur 12 leçons sur le fascisme. Et puis ce titre ne plaisait que modérément à l'éditeur, donc je lui ai proposé quelque chose de plus austère du fascisme. Mais dès que j'ai pu rentrer par la fenêtre, donc à cette occasion, j'ai rétabli, à mes yeux en tout cas, c'est un rétablissement, le titre auquel je tenais. Il y a 12 chapitres, et ce sont 12 leçons sur le fascisme. Le mot leçon étant là pour indiquer qu'il y avait quelque chose à la fois de pédagogique, bon, un petit peu ironique parce que ça a un côté professoral, mais c'est une référence aussi à un historien que j'aime beaucoup, Antoine Prot, qui a écrit un ouvrage, 12 leçons, ouais, bref, pas sur le fascisme. Mais. Et puis le troisième ouvrage s'appelle Les collaborateurs, c'est le plus ancien de ceux qui sont réunis là. Au total, d'ailleurs, j'ai réuni en termes de livres 4 ouvrages qui vont de, pour ce qui est de leur date de publication, de 1976 pour le plus ancien jusqu'à 2017 pour le plus récent. Ça s'étend donc sur une large période. Je ne les ai pas modifiés, hein. J'ai à chaque fois ajouté une préface pour cet ouvrage et puis une préface plus générale. Ce que je vais vous dire, n'est pas du tout un copier-coller de la préface générale, mais s'en inspire quand même pas mal. Et enfin, pour la bonne bouche, j'ai ajouté un quatrième ouvrage d'un caractère, je l'admets, un peu particulier par rapport aux trois autres. J'ai l'habitude de réunir mes ouvrages en trois catégories. Les histoires, qui sont en fait des études historiques où on essaye de respecter les principes de la méthode, bon, la méthode historienne. Les fables, ce qu'on appelle généralement des essais. Et puis les contes, qui sont, disons, des travaux proprement littéraires, enfin, qu'on pourrait qualifier de littéraires. Et donc, l'anarchisme de droite, puisqu'il s'agit de ça, le quatrième ouvrage qui est repris intégralement là, qui était plus mince, plus léger dans le ton aussi, était un essai, donc pour moi une fable. Je le dis à l'avance parce que si d'aventure vous lisez ce livre, vous sentirez un changement de ton, peut-être, de perspective dans ce quatrième texte. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était pas mal de l'intégrer, tant bien entendu que ça a le ton d'un essai. Est-ce qu'il faut dire que ça a le ton d'un pamphlet ? Ce serait exagéré, mais enfin bon, voilà. Je vous préviens à l'avance de la petite différence de ton, elle est assumée. Et j'ai ajouté autre texte, c'est-à-dire une demi-douzaine de textes courts, et pour en donner l'esprit, alors ce sont des textes, en effet, je le disais à l'instant, publiés plus récemment, puisque le plus ancien est sorti en 2016, et le plus récent en 2020, donc des textes courts, parfois très courts, et plus récents dans l'ensemble. Je vous en donne quand même les titres, j'ai réuni uniquement pour ce volume, ces six petits textes, sous un titre général, hein, qui s'appelle « Du bon usage des catastrophes », pour vous mettre vraiment dans l'ambiance qui s'impose. Voilà. Les six textes en question s'appellent, je pourrais pas le développer, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu les perspectives, ce sont généralement des textes qu'on pourrait qualifier de commandes. Alors ça peut être Pierre Nora en tant que patron de la défunte revue Le Débat. Ça peut être, ça c'était assez impressionnant pour moi, une prise de parole devant, alors je dirais, 700 psychologues cliniciens, etc., de l'école lacanienne. Ça se passait donc dans la ville dont j'ignorais qu'elle était la capitale lacanienne de France, bien que ce soit ma ville, par ailleurs, qui est Rennes. Voilà. Donc c'était assez impressionnant. On m'avait demandé, en sachant bien que je n'avais aucune compétence psychanalytique, je ne me reconnaissais pas dans le lacanisme en soi, sans être a priori hostile, on m'avait demandé de travailler sur la notion de fanatisme. Bon. Je lui dis, on va essayer, mais en précisant, vous avez devant vous quelqu'un qui n'a aucune expertise psy. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, je suis de ceux qui considèrent que les historiens devraient avoir une expertise psy. Parce qu'on marche sur deux jambes, me semble-t-il, la sociologie et la psychologie, grosso modo. Généralement, les sociologues méprisent la perspective psychologique. Je me rappelle un brillant sociologue qui, voulant discréditer pratiquement son adversaire dans une polémique, a dit « Ah mais ça, c'est une hypothèse psychologisante. » Mais j'imagine que du côté des psychologues, il y en a autant pour les sociologues. Enfin bref, alors, ce sont des textes entre guillemets de commande. Je vous en donne les titres, vous aurez simplement la saveur. Menace, réaction, crise, au singulier. Le charme discret de l'analogie, ça c'est sur le discours. Est-ce que nous sommes dans les années 30 ? Donc là aussi, c'était un peu une commande au début d'un festival d'historiens à Pessac. À droite toute, point d'interrogation, c'était destiné à cette revue Le Débat, qui a cessé récemment, et qui était fondée et dirigée par Pierre Nora, à qui je dois beaucoup, puisque si j'ai connu cette bibliothèque, c'est parce que j'ai participé au tome 1, puis à d'autres tomes, des lieux de mémoire dirigés par Pierre Nora, et qui avait un texte sur ce lieu dont j'ignorais tout, sincèrement. Donc ça, c'est à droite toute. L'histoire du monde est le tribunal du monde, ça c'est une phrase fameuse de Hegel, 2018, bon, je ne vais pas développer. C'est un entretien avec un journaliste. Benoît Escapas, certains d'entre vous, Escapas, le connaissent peut-être parce que c'est un des grands reporters, hein, c'est un titre officiel de manière Le Point. Il se trouve que par ailleurs c'est un ancien étudiant, donc ça facilitait le dialogue. De quoi l'enfer est-il pavé ? C'est le texte sur le fanatisme. Devant quelques centaines de lacaniens. Et un monde moins mondial que jamais. Alors ça, c'est un tract Gallimard, donc je pense que plusieurs d'entre vous savent ce que sont les tracts Gallimard. C'est une invention éditoriale assez récente qui a rencontré un très grand succès, parce que ça consiste à dire, on est entre le très petit livre, parfois peut-être le pamphlet, le libelle, et l'article, et d'ailleurs, le papier, la typographie, hein, montre qu'on est dans l'entre-deux, c'est un grand succès. Enfin, je ne parle pas de mon livre, mais la collection est un très grand succès. Et j'avais participé pour la première fois en 2020, au cœur de la pandémie, à la réflexion de ce moment-là. Et ma contribution s'appelait donc « Un monde moins mondial que jamais ». C'est-à-dire que, pour résumer de façon presque caricaturale, mais comme ça on peut se situer par rapport à cette affirmation, en n'étant pas d'accord éventuellement, pour moi, il fallait raisonner ensemble le fait que, à 24 heures d'intervalle, l'OMS a déclaré la pandémie, et officiellement, le Royaume-Uni est entré dans la logique du Brexit, s'est séparé de l'Europe. En d'autres termes, la traduction pour moi, c'est que on peut toujours analyser une mondialisation. La mondialisation du virus, c'est une belle mondialisation parmi tant d'autres technologies. Ça ne produit pas du tout fatalement du mondialisme. Ça peut même produire le contraire. Donc c'est un peu paresseux de dire, ben oui, tout se mondialise, donc nous allons tous devenir l'ONU. Ben, je ne suis pas du tout sûr que ça va, sinon se terminer, du moins dans les prochaines années, les prochaines décennies, aller comme ça. Donc c'était ça un peu, un monde moins mondial que jamais, une formule. Oui, oui, même moins mondial que jamais, je le dis au moment de la pandémie, moins mondial que jamais, parce que je sortais de l'écriture d'un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?», auquel je vais faire allusion, qui entre autres commençait par le fait que, appartenant à la génération, on va dire de mai 68, j'ai eu 20 ans en 68, bon, voilà. Je pouvais dire que vers 68, dans un milieu intellectuel, pas seulement français, la nation, c'était le passé, c'était le mal, et c'était plus subtil encore, la mystification, puisque c'était une construction, voilà. Et je détricotais ça en disant, mais nous nous trompions complètement, parce que, évidemment, la nation, c'était pas du tout le passé, et que ce soir, quand je vous parle, jamais la nation n'a été aussi puissante comme référence à travers le monde, mais jamais, jamais, pas d'hésitation. Donc c'était pas le passé, c'était le présent déjà et c'était l'avenir. Je dis pas que ça va rester comme ça éternellement, je suis pas prophète, je ne suis qu'un historien. Bon. Deuxièmement, le mal, mais parce qu'on confond le national avec le nationalisme, ça j'y reviendrai, qui peut produire la xénophobie, le racisme, tout ce que vous voulez, mais pas que. Et troisièmement, c'est une construction, alors là on est au cœur du sujet, c'est une construction, so what ? Comme on ne dit pas à l'Académie française. So what ? Parce que toutes les institutions politiques sont des constructions. Et par exemple, l'internation ou le mondial, ce sont des constructions. Ce sont des constructions. La question de savoir si ça tient ou si ça ne tient pas. Voilà. C'est pour ça que de temps à autre, encore hier, je participais à un jury de thèse lié à l'histoire russe et soviétique. J'ai à un moment ressorti ma vieille idée, à savoir qu'on pourrait considérer que l'histoire est une science expérimentale, ça aussi c'est une provocation, non pas pour qu'on puisse reproduire l'expérience, ce qui serait le rêve de tous les historiens, non, mais parce que nous n'étudions, nous historiens, jamais que des expériences. Nous étudions des expériences politiques, économiques, culturelles, pour simplifier, tout ça faisant des expériences de société, qui ont tenu plus ou moins longtemps, qui ont produit plus ou moins longtemps. On a reçu récemment le roi Charles III, je vous signale qu'il est directement, mais directement, sans transition, issu d'une révolution, qui est d'ailleurs la première révolution pour laquelle on a prononcé le mot révolution, qui jusque-là était un mot d'astronome, c'est la révolution anglaise de 1688. Ce qui fait que, quand Mme Thatcher est venue en France à l'invitation de François Mitterrand, en 1989, pour participer à la célébration, je pense qu'elle ne la célébrait certainement pas, du bicentenaire de la Révolution française, elle a malicieusement fait remarquer que eux, les Anglais, avaient un siècle et un an d'avance, 1688. Bon. Ben, Charles III, il ne se comprend pas, et Camilla, etc., sans cette révolution de 1688, qui a grosso modo installé le modèle de la monarchie parlementaire. Voilà, je simplifie, mais... Donc, libéral parlementaire, c'est quand même capital. Donc, c'est une expérience. Et je le disais donc hier, puisqu'il était question de l'Union soviétique, du stalinisme, etc. Ce n'est pas la même chose pour un historien de dire « je vais m'intéresser, je vais en tirer certaines conclusions, etc. » à la Commune de Paris, qui a duré 72 jours, et à l'Union soviétique, qui a duré 72 ans. Donc vous ne pouvez pas construire votre objet de recherche de la même façon. Voilà. Donc oui, je pense que nous sommes des sciences expérimentales, même si c'est évidemment un paradoxe. Alors, Peuple souverain, qui est donc le premier ouvrage repris dans ce livre, à cette occasion, je commence sur quelque chose qui m'a sauté aux yeux alors que je commençais à travailler sur le populisme, à savoir qu'il y avait exactement au jour près, moyennant une toute petite astuce de calendrier, mais au jour près, c'est-à-dire le 8 novembre, 99 ans, entre la prise du pouvoir décisive à Petrograd, ex-Saint-Pétersbourg, futur Leningrad, futur Saint-Pétersbourg, donc ça, ça dit beaucoup de choses. Il avait 99 ans, jour pour jour, entre le moment où son maître des administrations essentielles à Petrograd, c'est pas, ils mettront plusieurs années à s'installer au pouvoir, lorsqu'il deviendra ensuite l'Union soviétique, hein. Mais 99 ans exactement, jour pour jour, entre ça et la victoire de Trump aux élections. Bah, à mon avis, ça résume beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'Union soviétique, ça a été quand même la grande utopie au sens étymologique du terme, sans jugement de valeur, du XXe siècle, qui en a généré d'autres, qui a peut-être, d'ailleurs, j'y reviendrai, généré le fascisme, comme réaction, mais bon, n'entreprenons pas trop de poursuivre ça pour l'instant, mais pour la discussion, pourquoi pas. En tous les cas, c'est une date capitale, mais évidemment, c'est un peu comme les 72 jours et les 72 ans, avec le recul, on a, dans un autre pays, qui s'appelle les États-Unis. Et donc, il y a ce balancement, ça concerne directement le populisme d'ailleurs, Russie, États-Unis. On verra que la France joue son rôle. Hein. Ce sont les trois pays peut-être essentiels, Russie, États-Unis et France, et finalement plutôt France que les deux autres. Ben, il s'est passé quelque chose d'essentiel, de fondateur, une fois, et puis, on verra. Je ne suis pas en train de dire que M. Trump va être réélu, mais l'élection, la première élection, ou la seule élection de M. Trump, ça suffit pour déjà interroger le fameux sens de l'histoire. Entre les deux, effectivement, le populisme, entre la victoire de Lénine et celle de Trump, le populisme a été d'abord un mot. Alors ça, quand on aborde la question du populisme, on est quand même obligé de le préciser à chaque fois. C'est vrai que ce mot soit apparu, pour simplifier, à l'échelle internationale, dans les années 1892-93, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, enfin dans le Royaume-Uni, à partir justement des Russes. C'est intéressant que ce soit à ce moment-là, ça on pourra en parler, pourquoi est-ce que le mot se cristallise à la fin du 19e siècle. Mais la chose, ben, on verra qu'on peut remonter plus haut, et que bien sûr on va descendre plus bas, parce que il y a donc eu aux États-Unis, à partir de ces années 1890, en 91 exactement, un éphémère parti du peuple, People's Party, qui a été qualifié de populiste, et on a du coup inventé, avec toujours un peu de retard, populisme, hein, c'est-à-dire qu'on avait un phénomène politique, ah, il y a des populistes, People's Party. Mais l'idée que, ah mais oui, il y a peut-être une idéologie qui l'identifie, on imagine bien que c'est un travail second, ça suppose un peu de sophistication, ça, on commence à se quereller sur ce que ce mot a un sens, etc. Populisme. Mais quand ça paraît en anglais, c'est à propos d'une expérience russe liée à partir des années 1874, etc., Alexandre Herzen et compagnie, à la marche vers le peuple de membres remarquables de l'intelligentsia russe. Et je fais remarquer que de même qu'il y a effectivement une contribution russe à l'élaboration du terme et du concept de populisme avec les narodniki, donc les populistes, narod, peuple, mais c'est également la Russie qui a inventé le mot d'intelligentsia, qui s'écrivait souvent avec un Z en transitération française. Ça dit des choses, c'est-à-dire que le statut de l'intellectuel en Russie, pays soumis à cette époque à une autocratie qui était en train de se réformer très modestement, et puis qui ne s'est évidemment pas réformé suffisamment pour ne pas s'effondrer, vous avez ce rôle des intellectuels qui est prouvé par cette sorte de petite pierre, de ce petit caillou qui est laissé. Ou cette épave sur le bord de la plage, là, c'est intelligentsia vient de cet univers-là. Donc ça se passe comme l'affaire de Trump versus Lénine, telle que je l'imagine à 99 ans d'intervalle, ça se passe dans ces deux pays-là. Et il y a un moment où on parle de populisme, mais personne n'a l'idée à l'époque de qualifier de populistes les bolcheviks, ni d'ailleurs les fascistes. J'y reviendrai tout à l'heure, travaillant à la définition, d'après moi, du populisme. J'ai conclu, d'où le fait que j'ai mis ce livre sur le fascisme dedans aussi, que le fascisme faisait partie de la famille populiste, dont il serait une forme extrémisée, une forme qui va encore plus loin que ceux qu'on peut qualifier de populistes avant. Donc, gardons ça à l'esprit, on peut discuter effectivement du rattachement du fascisme au populisme. C'est pour moi la même famille, mais vous avez plusieurs nuances dans cette famille. Et le terme, je continue sur le terme, c'est-à-dire le terme dans les, ce qu'on va appeler peu à peu les médias, et le terme surtout dans les débats entre intellectuels, intelligent, dans les universités, le débat sur le populisme est presque absent, jusqu'à ce qu'on voit se développer des expériences politiques assez spécifiques dans une région du monde qui s'appelle l'Amérique latine. Et là, on est après la Seconde Guerre mondiale. On est après la Seconde Guerre mondiale, tout juste. Et là, j'étais frappé, je ne m'en suis même pas servi dans mon livre « Peuple souverain », mais en y réfléchissant pour vous, je me suis dit « mais c'est quand même extraordinaire ». Le premier grand leader, alors on va l'appeler dictateur, mais c'est pas le premier dictateur en Amérique latine, ni même ailleurs, bien sûr. Mais le premier grand leader qui réunit les conditions du populisme, et là le mot va commencer à ressurgir dans les premiers observateurs spécialisés dans l'Amérique latine, c'est Juan Perón, c'est en Argentine. Vous voyez l'actualité de l'Argentine. Mais en même temps, c'est plus du tout le même monde, hein, parce que Juan Perón, c'est un militaire, j'allais dire comme il se doit. Celui d'aujourd'hui, c'est pas du tout un militaire. Bref. Donc, ça se passe en Argentine, et Juan Perón prend le pouvoir entre 43 et 46. C'est un peu comme si, ça ne m'avait pas frappé à ce moment, s'il y avait une figure de populisme qui s'effondrait juste à ce moment-là, qui était le fascisme, mais il y a des figures plus pertinentes pour ce soir, où je parle, et ça commence en Amérique latine. Alors, je ne vais pas développer pourquoi on met Perón là-dedans, il n'est pas le seul, et en quoi d'ailleurs il peut être considéré comme par exemple une aile gauche du populisme. Bref, j'ai découvert à cette occasion d'ailleurs que quand on est élu, alors il faudra que je vérifie pour Javier Milei, parce qu'est-ce que le titre a changé, je n'ai pas vérifié, on est élu, quand c'est son cas là, en 1944, vice-président puis président, mais le fait il est président de la nation argentine. Dans les institutions, je pense que ça va être toujours le cas aujourd'hui, on n'est pas président de la République. En tous les cas, là, il est président de la nation argentine, ça dit beaucoup de choses. C'est pas la même chose que d'être président de la République argentine. Et on pourrait poursuivre les étapes qui font que peu à peu tout ça s'est cristallisé. Je crois qu'il y a eu une étape très intéressante aux alentours de l'an 2000, qui m'avait frappé, en tous les cas, qui a frappé aussi, mais peut-être pas assez d'un point de vue théorique. Ça a été d'ailleurs à l'occasion surtout de son assassinat, l'assassinat d'un leader qu'on va qualifier d'extrême droite, mais extrême droite, c'est pas très intéressant pour ce que je veux dire. Et je veux dire, c'est pas intéressant, c'est un peu trop fourre-tout, mais évidemment populiste. Aux Pays-Bas, modèle de démocratie, puisque, donc, qu'est-ce qu'une nation? Je rappelle que la nation, au sens moderne du terme, ça part des Pays-Bas. Et on pourrait dire aussi que le libéralisme politique réalisé, c'est les Pays-Bas. Ben, dans ce pays-là, du 16e et 17e siècle, vous aviez un leader populiste qui était en train de monter, on ne savait pas s'il allait gagner les élections, il a été assassiné par ses adversaires. Il s'appelait Pim Fortuyn. Fortuyn. Mais Pim Fortuyn, il se présentait comment? Il était maître de conférence en sociologie et gay. Donc, par rapport à Juan Perón, le militaire, hein, il y a des choses qui changent. Hein, la société change. Et vous pouvez avoir un sociologue gay qui devient un leader anti-musulman, appelant à l'expulsion des musulmans. C'est ça qui est intéressant. C'est ça le sens de l'histoire. Sinon, vous seriez enfermé dans l'idée, ah bon, j'ai compris ce que c'est que ça. Et je dirais qu'après l'élection de Trump, l'élection récente de Javier Milei, et puis bien d'autres événements, ont montré que là, du coup, le mot populisme a été mis presque à toutes les sauces, mais pas sans raison, avec, je dirais pour simplifier, trois caractéristiques, c'est comme ça que je les résume, je dirais une souveraineté populaire confisquée, c'est-à-dire un discours d'appel au peuple. Je signale tout de suite que le premier mouvement qu'on peut qualifier de populisme dans l'histoire française s'appelait l'appel au peuple. Avec un P majuscule, bien entendu. Le peuple, oublié, confisqué, roulé dans la farine par les élites. C'est devenu de plus en plus clairement ça aujourd'hui. Ce premier mouvement populiste au sens moderne, 19e, fin 19e, qui n'a rien à voir avec le People's Party, qui est un parti de gauche qui a du mal à se situer, qui va éclater assez vite, qui n'a rien à voir avec les Narodniki, qui sont des intellectuels qui vont au peuple, bon, ça c'est une autre logique. Non, ce mouvement, dans les années 1880, c'est le boulangisme. Donc j'y reviendrai, la France, à mon avis, a inventé le populisme au sens moderne, en tant que mouvement politique. Pas en tant que gouvernement, puisque le boulangisme a échoué, de peu. L'année du centenaire de la Révolution française, 1889. C'est-à-dire qu'en janvier 1889, les augures pouvaient dire, ça y est, c'est gagné, Boulanger, le général Boulanger, va gagner les prochaines élections, et même sans les prochaines élections, il va faire un coup d'État. Ses partisans voulaient d'ailleurs qu'il fît un coup d'État tout de suite, on est en janvier 89. Et comme c'était un militaire républicain, de gauche entre guillemets, il a reculé. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante, parce que je la trouve très moderne. Dans la nuit du dimanche de ces élections, où il y avait une sorte de marée, là, et où les certains partisans de Boulanger, la plupart, disaient « Mais mon général, prenez le pouvoir, marchez sur l'Élysée. » Et il a dit bah, « Non, il y a des élections à la rentrée, donc on va attendre des résultats. Bon. » Et alors, un boulangiste de l'aile gauche des boulangistes, donc en fait un socialiste boulangiste, a sorti sa montre oignon et a dit « Il est minuit 5, depuis 5 minutes, le boulangisme est en baisse. » Ça paraît très moderne, mais c'était vrai. Il n'a pas voulu faire le coup d'État. Donc, le boulangisme s'appelle déjà l'appel au peuple. Et donc, cette idée qu'il y a un peuple bâillonné, humilié, hein, bon, ça c'est fondamental. Et moi, leader populiste, moi, parti populiste, je vais venger le peuple. Donc, l'appel au peuple. Parce qu'on dit le boulangisme, mais officiellement, ça s'appelait l'appel au peuple, avec un P majuscule. Et je reviendrai sur la composition du boulangisme, parce que ce qui est intéressant, c'est la convergence gauche-droite, bien sûr. Deuxième caractéristique, une identification forte à une communauté nationale, c'est-à-dire que dans le modèle standard du populisme, il y a toujours une dimension nationale et même franchement nationaliste, avec des variantes, mais voilà, exaltation de la nation, dans un sens en effet nationaliste, alors modèle Ron Perron, modèle Fortuyn, modèle... Bon. Enfin, une personnalisation du leadership, c'est-à-dire qu'il y a une personnalité charismatique, vous pourrez utiliser tous les termes, un général à un certain moment, Boulanger, Perron, etc., et puis jusqu'à un maître de conférence en sociologie. Bon, mais une personnalité cristallisatrice, un culte de la personnalité qui l'accompagne, etc. Et un rapport à la radicalité. Un rapport à la radicalité est, disons-le, la capacité de faire converger deux radicalités. D'où la définition que je donnais à ce moment-là et que je conserve ce soir encore du populisme. C'est une droite radicale dans un style de gauche radicale. Et c'est ça le succès. Et le style de gauche radicale, ça consiste à parler du peuple, à parler de la nation, donc des thèmes qui viennent absolument de la gauche, ça c'est clair. Nation, je rappelle, ça vient de la gauche. Vous êtes réprimé, vous êtes parfois massacré parce que vous exaltez la nation quand, vers 1820-1830 à travers l'Europe. La nation, c'est la gauche, c'est ce qui va contre la légitimité dynastique. Donc, il y a un style de gauche. Bon, la radicalité, enfin, la droite radicale, on peut voir par un régime autoritaire, personnalisation du pouvoir, tout ce que vous voulez. Entre parenthèses, du coup, le stalinisme, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça? En revanche, ce style de gauche, la critique des élites, l'idée qu'on va faire, alors aujourd'hui on dirait du social, on n'oublie pas le peuple, donc il y aura des mesures, symboliques ou pas symboliques, en direction de ce fameux peuple. Voilà. Et justement, quand vous regardez l'état-major du général Boulanger, donc premier mouvement populiste au sens moderne du terme, au monde, vous avez 50-50 à peu près. Vous avez la moitié de ces principaux conseillers et dirigeants donc de l'appel au peuple qui viennent de l'extrême droite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont des monarchistes, on est au début de la Troisième République, hein, 1889, début de la Troisième République. Ce sont des monarchistes populaires. C'est-à-dire des monarchistes en particulier qui se sont ralliés au suffrage universel. Alors qu'au départ, un monarchiste dit « qu'est-ce que c'est que ça ? On donne la parole au à ce peuple, à cette populace, à cette tour, bah oui, mais ça a changé, hein, le sens de l'histoire. Et quel est le discours des monarchistes populaires? Je m'étais rendu compte d'ailleurs l'autre jour, parce que je travaillais sur un tout autre sujet, sur un journaliste qui a quasiment inventé le journalisme sportif en France, qui est à l'origine, je vous souviens pour l'anecdote, de cette pâtisserie qu'on peut aimer ou pas, qui s'appelle le Paris-Brest. Et donc, c'est l'alliance d'un pâtissier de Maison Lafitte, et c'est toujours Maison Lafitte, la capitale du Paris-Brest, et d'un journaliste sportif. Et ce journaliste sportif est à l'origine de l'idée de faire, on dirait aujourd'hui, sponsoriser des courses sportives, il les a quasiment inventées, par des médias, dirait-on aujourd'hui, le petit journal, etc. Il avait comme adversaire un noble qui tenait la région, il s'est présenté aux élections contre lui, qui s'appelait le comte de Dion, qui a donné les deux Dion boutons. De Dion, qui était vraiment une caricature d'aristocrate d'extrême droite, avait créé un mouvement qui s'appelait le suffrage universel. Pourquoi? Parce que, de ce point de vue du monarchiste populaire, le peuple, lui, est saint. Les élites sont corrompues, elles sont voltairiennes, elles sont franc-maçonnes, elles sont juives, elles sont internationalistes, socialistes, mais le peuple est saint. Donc, allons-y, le suffrage universel nous donnera la majorité. Eh oui. Donc, il n'y a plus de tabou de ce côté-là. Ça, c'est les monarchistes populaires. Et l'autre moitié de l'état-major de Boulanger, ce sont des anciens communards. Le plus connu, le plus populaire, Henri de Rochefort, devenu Henri Rochefort. Il était beaucoup plus connu que Louise Michel, etc., après la Commune. Et quand, d'ailleurs, le mouvement boulangiste aura échoué, comment vont se reconvertir ceux qui étaient donc des socialistes, hein, qui mettaient en avant le terme de socialisme, socialisme national. Barrès était candidat socialiste aux élections, il était boulangiste. C'est à ce moment-là qu'ils vont se reconvertir dans l'antisémitisme. Bah oui, pour rester à gauche, rien de tel que... Donc c'est très intéressant de voir, à travers l'exemple du premier mouvement populiste, comment ça marche. D'où trois questions de fond. Alors que je résume, parce que c'est assez dense hein, dans le livre, qui sont dans, en particulier dans la préface du livre. Des questions qui sont posées à la notion de peuple. Premièrement, le peuple, fondamentalement, c'est un postulat. C'est un postulat parce que c'est une fonction. C'est une fonction, ça sert à quelque chose. On peut dire, en jouant à peine sur les mots, que c'est du coup une fiction qui vient d'une fonction. Pour justifier des institutions et des politiques, des institutions et des programmes politiques. Évidemment, il y a toute une généalogie qui remonte à l'Antiquité classique, moins d'ailleurs pour les expériences elles-mêmes, qui finalement ont été relativement courtes, Athènes, la République romaine, et surtout qui se sont terminées mal du point de vue des démocrates, terme qui existe dans l'Antiquité grecque déjà. Donc il s'agisse de la notion de démos, on ne va pas faire un cours là-dessus, grec, ou de la notion de populus, hein, romaine, puisque la République romaine, c'est le Sénat et le peuple romain. D'où un tribun du peuple, etc. Donc, vous avez d'abord, de temps à autre, quand il y a débat dans ces sociétés originelles de l'Antiquité, vous avez de temps à autre des cristallisations terminologiques tout à fait intéressantes, parce que, bon, on parle pas de populisme, d'accord, chez les Romains, mais à la fin de la République romaine, dans le dernier siècle, vous avez un parti, un vrai parti organisé, donc très moderne, hein, qui s'appelle les populaires, populares. Et vous avez deux personnalités en particulier qui dominent cette tendance, Marius, qui n'est pas le Marius de Marcel Pagnol, mais qui explique pourquoi il y a le prénom Marius en Provence, parce que ça a été celui qui vraiment a installé la domination romaine en Provence, la provincia. Il y a Marius, et il y a son héritier, pas direct, mais deux générations après, Jules César, qui est évidemment un populares. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à couteau tiré avec les sénateurs, avec les élites. Eux-mêmes sont issus des élites, et ils n'arrêtent pas de se référer au peuple. Et ils réussissent généralement à submerger les sénatoriaux, etc. Et puis vous avez une figure extraordinaire, plus subtile que ça encore, dans la Grèce antique, qui est le tyran. Le tyran, c'est pas un despote. La confusion tyran-despote, elle vient de tout ce qui a suivi après. Non, un tyran, c'est ce que je viens de dire. C'est une forte personnalité qui prend le pouvoir à Athènes, Pisistrate et d'autres, mais dans beaucoup de cités grecques, qui fonctionnaient de façon démocratique, mais qui prend le pouvoir au nom du peuple contre les élites. C'est ça le tyran. Hein, ça, c'est quand même assez intéressant. D'où, évidemment, une équivoque du peuple, dans, du coup, là, les temps modernes, sur sa délimitation. Parce que vous aurez des querelles infinies sur est-ce que le peuple se résume à des classes populaires, mais au pluriel. Alors, les classes populaires, ça va jusqu'où? Vous savez, les marxistes ont beaucoup discuté pour savoir si la paysannerie, c'était une seule classe. Vous avez les paysans moyens pauvres. Dans le maoïsme, il y a des textes sur les différentes catégories de paysans, etc. Donc, qu'est-ce qu'on met dans classe populaire? Ou alors, si c'est classe ouvrière, bah, qu'est-ce qu'on met dans classe ouvrière? Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas classe populaire ou classe ouvrière? Je rappelle que classe, ce n'est jamais, pour dépassionner un peu le débat, qu'un principe de classement. C'est un principe de classement qui date de l'époque, j'allais dire, de cette bibliothèque, enfin, des années 1820-30, donc c'est avant la bibliothèque, mais ce sont les intellectuels qui cristallisent leurs idées à l'époque, donc sous la Restauration et la monarchie de Juillet, et qui commencent à raisonner en termes de classe. En France, vous avez François Guizot, qui est historien, ministre de l'Intérieur, quand Louis-Philippe prend le pouvoir, personnalité importante, disons, libéral-conservateur, qui tombe parce qu'il est plus conservateur que libéral, la révolution de 1848, Guizot a inventé l'expression « lutte des classes ». C'est pas Marx. Parce que pour Guizot, qui est un libéral, plutôt conservateur, même nettement conservateur, qui est quand même un libéral, qui est un protestant, c'est quand même capital, pour Guizot, cette lutte des classes va se terminer par la victoire d'une classe, la classe moyenne, pas les classes moyennes, la classe moyenne. Alors, c'est à se demander dans quelle mesure il n'est pas été plus prophétique que Marx, mais ça, c'est une autre affaire. En tous les cas, pour lui, il y a lutte des classes. Donc là, il y a la notion de classe, lutte des classes, et contemporainement, 1820-1830, d'ailleurs Augustin Thierry est un historien intéressant pour ça, vous avez l'invention de la notion de race. Ces notions classe-race existent avant, mais la manière dont on les raisonne comme fondement d'une typologie et d'une taxinomie, c'est à ce moment-là que ça... Donc ce sont des principes de classement. Donc ça, c'est assez capital. Du coup, ça rend extrêmement équivoque la notion de peuple. Et ça n'empêche pas, puisque, au fond, les institutions politiques modernes, j'y viens, se réfèrent massivement à la souveraineté populaire. Ce soir, quand je parle, vous avez, très approximativement, 95% des États-nations représentés à l'ONU qui se réfèrent à la souveraineté du peuple. Ça, j'en ai parlé dans Qu'est-ce qu'une nation ? Y compris la Corée du Nord, bien sûr, mais y compris, parce que c'est le peuple coréen, etc., d'autant plus que la Corée du Nord s'est de plus en plus éloignée du marxisme, donc dans les textes officiels de la Corée du Nord, il n'y a plus de référence à l'idéologie marxiste. C'est quand même assez frappant. Mais il y a toujours un peuple coréen qui doit être réunifié, etc. Mais là, la révolution islamique en Iran, c'est ça. À l'époque, je me suis consacré à lire certains préambules de constitution. Le préambule de la constitution de la République islamique, hein, c'est très important les termes, d'Iran, est un préambule totalement 1789. Hein. Ça ne veut pas dire, mais après Allah intervient. Non, c'est le peuple iranien a renversé un despote, comme Louis XVI, qui est le Shah. Et ensuite, il y a eu un référendum, et avec, alors je ne me rappelle plus le chiffre, 98,5%, hein, le peuple a approuvé cette révolution. Donc c'est un raisonnement de souveraineté populaire, qui est beau, qui est des mollas partout, ça ne change rien au fond. En revanche, pourquoi je ne vous dis pas 100%, c'est que l'Arabie Saoudite, par exemple, le Sultanat d'Oman, quelques autres, sont des systèmes politiques qui sont d'anciens régimes. Et le nom Arabie Saoudite vous le dit, ce n'est pas le peuple, c'est la famille d'Ibn Saoud, enfin qui descend de Saoud. Comme on disait, Empire Ottoman, future Turquie. C'est les descendants de Ottoman qui dirigent. Donc on est dans une logique dynastique qui n'a rien à voir avec la souveraineté populaire. Donc il n'y a pas 100%, mais quand même massivement, qu'il s'agisse des pays d'Amérique latine, d'Asie, etc., d'Afrique évidemment, une référence à la souveraineté populaire. Donc ça, ça devient capital, mais ça accroît évidemment l'équivoque du terme de peuple. D'une certaine façon, ça concerne aussi la médiation. Je dis le sourire parfois, l'agacement que j'ai quand même, je suis personnellement fils de journaliste, bon, je ne vais pas dire du mal globalement du métier, mais inévitablement, vous allez entendre, quand il y aura des manifestations quelque part, je vais noter ça à propos du Liban, en plus dans le cas du Liban, c'est tellement mal choisi, bon, compte tenu de la division fondamentale du Liban, et ce n'est pas notre nouveau secrétaire perpétuel à l'Académie qui dira le contraire, Amin Malouf, des journalistes hein, qui disent, enfin, c'était vrai pour la Syrie aussi, le peuple libanais est descendu dans la rue pour manifester. Quand est-ce qu'un peuple descend dans la rue? C'est une fraction du peuple. Est-ce que vous imaginez qu'en 1944, 100% des Français ont applaudi les Américains. Pas 100%. Donc le peuple... Non, évidemment, le peuple, c'est un principe de souveraineté. Mais attention, il ne faut pas tout confondre. Donc, d'une certaine façon, l'homologie entre le gouvernant et le gouverné, ça suffira. Deuxième remarque théorique importante, ce peuple peut être autoritaire. Et la troisième remarque, c'est ce peuple peut être identitaire. Il peut être autoritaire parce que dans la notion de démocratie, pouvoir du peuple, fondée sur la souveraineté de ce peuple, il n'y a rien, il n'y a pas un espace qui induise automatiquement la liberté. C'est une option. Ça s'appelle la démocratie libérale, pour simplifier. C'est l'option libérale de la démocratie. Mais la démocratie autoritaire n'est pas un oxymore. J'irai plus loin, moi je pense qu'on peut distinguer autoritaire et totalitaire. Je reviens sur... la soutenance d'habilitation d'hier après-midi concernait le stalinisme, défendait l'idée qu'évidemment, il fallait distinguer, pour moi, l'autoritaire du totalitaire. À savoir que si on distingue, c'est pour montrer qu'il y a une parenté, mais il y a quelque chose qui va distinguer, par exemple, M. Orban de Staline. Sinon, on mélange tout. Donc, bref, il y a une démocratie autoritaire, ce n'est pas un oxymore, c'est pas une contradiction. Pas du tout. Parce que ce sont effectivement les processus démocratiques issus, alors respectivement du XVIe siècle néerlandais, j'y faisais allusion tout à l'heure, du XVIIe siècle anglais, j'y faisais allusion tout à l'heure, du XVIIIe siècle américain et français, qui a accompagné ces révolutions astronomiques de déclarations de principe. La plus belle, entre parenthèses, la déclaration française, non, mais remarquable, mais la déclaration américaine... Virginie, c'est à pleurer. Hein. Enfin bon, merci. Je vous demande de la lire. C'était à la fin de mon livre « Qu'est-ce qu'une nation ?» C'est quand même très très fort. Très, on va dire très beau. Mais ça, c'est une option. De dire qu'il y a, pour simplifier, liberté, égalité. Bon. On peut imaginer que dans la démocratie et encore, Il y aurait égalité, mais en même temps, vous avez des démocraties oligarchiques. D'ailleurs, qu'elles soient oligarchiques, comme Venise, c'est, pour une république, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, Venise ne prétend pas être une démocratie. Mais en tous les cas, liberté, non, c'est une option. Et d'ailleurs, alors là, on est en plein dans l'époque de cette bibliothèque, un bel exemple de prise du pouvoir dans la perspective d'une démocratie autoritaire se situe en France, toujours, cocorico. C'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Parce que Louis-Napoléon Bonaparte, c'est quand même très moderne. Hein, très moderne. C'est le neveu de l'oncle, bon, d'accord. Il acquiert, en l'espace de presque quelques semaines, il est inconnu, ridiculisé en février 48, il est élu quand même en décembre. Donc, vous savez ces fameux Javier, tous ces gens qui surgissent d'un seul coup. C'était ça, avec les moyens du bord à l'époque, c'est pas la technologie d'aujourd'hui, il n'y a pas la télévision, hein. Il est élu triomphalement. Triomphalement. Il n'y a pas de doute. Une énorme majorité au premier tour, etc. Président de la République au suffrage universel. La France a inventé, au niveau mondial, l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Vous n'aviez pas de précédent. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais il y avait eu les États-Unis. Ben non, puisque vous le savez bien, vous allez le vérifier l'année prochaine. Et les États-Unis n'élisent pas leur président au suffrage universel. Sinon, Trump n'aurait pas été élu. Il y a des grands électeurs. En France, on passe d'un extrême à l'autre, comme très souvent en France. En février, alors qu'on avait un suffrage censitaire que Guizot ne voulait pas élargir, le pauvre homme, du coup on est passé à l'autre extrême, suffrage universel, bien sûr masculin. Mais vous imaginez la différence d'échelle entre quelques centaines de milliers et plusieurs millions d'électeurs. Eh bien, ces plusieurs millions d'électeurs, ils élisent le neveu de l'oncle, Louis-Napoléon Bonaparte, parce qu'effectivement, l'oncle avait déjà construit, pour moi, une démocratie autoritaire qui s'appelait le consulat et ensuite l'empire. Et donc, le neveu, c'est encore plus génial que l'oncle. Le neveu, pour diverses raisons, est mis en dessous de l'oncle. D'ailleurs, il n'existe que parce qu'il y a eu l'oncle, au départ. Mais, il est quand même génial à un moment essentiel, parce que quand il prend le pouvoir, c'est ça que Victor Hugo, les Républicains, etc., ne pourront jamais lui pardonner, évidemment. C'est qu'il ne respecte pas son serment. Parce qu'il est quand même élu, hein, c'est le président de la République. Bon. Mais il ne respecte pas son serment, il dissout l'Assemblée nationale. Donc, article 1 du coup d'État, c'est le texte, hein, je dissous l'Assemblée nationale. Mais il y a un article 2, c'est ça qui est fondamental. Article 2, le suffrage universel est rétabli. Pourquoi ? Vous allez me dire, mais vous venez de me dire qu'en 48, bah oui, mais c'est qu'entre 48 et 51, le parti, parce que c'est déjà l'époque où se constituent des partis, hein, clairement, on dit parti, le parti de l'ordre, c'est le nom qu'on lui donne ici, bon, mais le parti de l'ordre, c'est-à-dire la droite classique qui n'aime pas le suffrage universel, qui n'est pas forcément monarchiste, qui peut être républicaine ou conservatrice, etc., mais qui ne veut pas de suffrage universel, a fait, d'une certaine façon, l'élection, en tous les cas, a massivement voté pour Louis-Napoléon Bonaparte, mais ce n'était pas elle qui faisait la décision, c'était le fameux peuple. Mais enfin, elle l'a soutenue, donc au niveau du gouvernement, elle contrôle quand même une bonne partie du gouvernement. On voit émerger les premiers ministres qui vont devenir, eux, vraiment bonapartistes, et qui vont rester au pouvoir, puis les autres seront les dindons de la farce. Et elle a donc passé son temps à détricoter le suffrage universel pendant 3 ans. Résultat, au moment où celui qui va donc devenir un dictateur, même vous remarquerez qu'on n'utilise jamais le terme dictateur pour les deux Napoléons. C'est étonnant, c'est extraordinaire. C'est un dictateur. Mais je signale tout de suite que dictateur, ça peut vouloir dire populaire, hein, parce que sinon vous ne comprenez rien à l'histoire. L'adhésion au dictateur. Eh bien, il rétablit le suffrage universel parce qu'un tiers du corps électoral avait été rayé en 3 ans. Donc, il dit, moi, je reviens sur ces lois, je rétablis le suffrage universel intact. Donc, conseil d'amis pour celles et ceux qui voudraient devenir dictateurs, quand même, premier conseil, pour devenir vraiment dictateur, c'est mieux d'être déjà au pouvoir. C'est moins fatigant que d'être comme Lénine, obligé de prendre le palais d'hiver, d'été, tout ce que vous voulez. Et deuxième conseil, évidemment, rétablissez le suffrage universel à votre profit. Donc, c'est ça, le populisme pur et parfait. Enfin, alors, je ne connais rien. Donc, c'est évidemment pour mettre en place une démocratie autoritaire. Et puis troisièmement, le peuple peut être identitaire. C'est-à-dire que, je l'ai montré dans le livre « Qu'est-ce qu'une nation ?» Il ne faut pas tout mélanger. Le patriotisme appartient à toutes les communautés humaines. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'appeler forcément patriotisme, mais on voit très bien comment, dans les mythologies de la dite communauté, dans l'histoire de ses relations avec les peuples voisins, parce que le peuple avec un petit p, il est universel. Je rappelle aussi ce que j'avais dit dans « Qu'est-ce qu'une nation ?» pour répondre à la question « Mais qu'est-ce qu'une nation ?» Justement. Question posée par Ernest Renan, plusieurs d'entre vous le savent. Ben, moi, je donnais une réponse. C'est un peuple avec un petit p qui devient le peuple avec un grand p. Donc, le peuple avec un petit p, c'est universel. Vous avez des circonstances historiques qui font que se cristallise quelque chose qu'on va appeler les Petchenegs, bon, qui vont émerger. Il faut déjà que le nom émerge et puis qui vont devenir quelques siècles et qui vont être génocidés parce que des peuples qu'on règle la carte, hélas, enfin, hélas, je suis historien, je ne devrais pas dire hélas, mais en tous les cas, les peuples qu'on règle la carte, c'est sempiternel. Donc, les peuples, ça existe petit p, ça ne fait pas des nations. Pour que ça devienne une nation, il faut qu'il y ait l'idée de souveraineté populaire. Donc, il faut que ça devienne le peuple avec un grand p. C'est comme ça que vous comprenez pourquoi il y a à la surface de la Terre, dans un endroit quand même très stratégique, aujourd'hui, des Lituaniens, des Lettons et des Estoniens, des Ukrainiens. C'est quand même bizarre, au fond, bien, pourquoi ils ne seraient pas tous russes? Ben, pourquoi, c'est Leibniz qui avait vraiment dit le mot qu'il fallait, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc pourquoi est-ce qu'il y a, mon Dieu, des Estoniens? Bon, ben, je vous signale que ça peut être à moins une. Hein. S'il y a des Finlandais, c'est parce que c'était des populations finnoises dominées par des protestants, les Suédois, qui ont donc choisi le protestantisme, qui ont donc pu faire écrire, dès le XVIe siècle, en finnois, les textes sacrés. Et c'est à ce moment-là que vous avez une langue, une littérature finnoise et une Finlande. Sinon, ben, ça aurait peut-être été, ça aurait été une annexe de la Suède que peut-être les Russes auraient pris, d'ailleurs la Carélie, ça a été de ce destin-là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc c'est des peuples avec un petit p. Mais pour que ça devienne un peuple avec un grand p, ben, il faut la souveraineté populaire, donc c'est le 18e, le 19e, 20e, 21e siècle. Est-ce qu'il y aura un jour, effectivement, un État-nation palestinien? Il y a déjà un État-nation juif, j'y reviendrai dans un instant d'ailleurs. Donc, identitaire, patriotisme, pour que ça devienne nationalisme, il faut qu'il y ait une sorte de révolution intellectuelle qui consiste à passer du national au nationaliste, pour simplifier. Le national, dans la logique, entre guillemets, de gauche des débuts, c'est un national intégrateur. Les nations sont des machines à intégrer. Un avis personnel, mais vous pouvez ne pas me partager, je considère qu'actuellement, les nations restent des machines à intégrer. Mais bien entendu, il y a quantité de signes inquiétants, tout ce que vous voulez, contradictoires, elles restent des machines à intégrer. Parfois, quand il n'y a plus d'État, là, bon, par exemple, vous aurez constaté qu'il y a deux États-nations qui étaient bien lancés et qui ont disparu, on n'en parle jamais, c'est la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Bon. Bref, mais bon, ce sont des machines à intégrer. Mais le nationalisme, ça consiste à dire, donc, les boulangistes, Barès, hein, les nationalistes, que la nation, c'est un principe d'exclusion et de discrimination. Il y aura les bons nationaux, les mauvais. Donc on imagine qu'ils sont les mauvais. C'est un retournement comme un gant de la nation intégratrice à la nation de distinction, voire de persécution, etc. Ça peut être très efficace. Moi, j'avais traumatisé définitivement mes étudiants en leur disant, écoutez, la preuve de l'entrée de la Turquie dans la modernité, quand elle cesse d'être l'Empire ottoman pour devenir la Turquie, c'est le génocide des Arméniens. Parce que avant, sous le sultan, il y avait une très belle définition de Madame de Staël, la grande anti-Napoléon Bonaparte, sur l'Empire ottoman. Le despotisme tempéré par l'assassinat. Pas mal. Donc, dans un système comme ça, les communautés sont reconnues à partir du moment où elles ne remettent pas en cause le pouvoir du sultan, qui est par ailleurs calife. On négocie. Il y a des tribunaux spécifiques, et ça vaut pour les Grecs, pour les Arméniens, pour les Juifs. Et comme les Juifs, d'ailleurs, n'ont pas fait l'objet de persécutions spécifiques à l'époque de Mustafa Kemal, dont maintenant M. Erdogan essaie de nous dire qu'il est d'origine juive, peut-être, pour bien le désinguer, au fond, il y a presque, dans certains milieux séfarades, une sorte d'idéalisation de l'Empire ottoman, en disant c'est quand même mieux que ce qui a suivi. Bon, ben, bon. Et donc, pour les Arméniens, là c'est très clair, hein, pour les Arméniens, c'est-à-dire que avant que vous êtes soumis au pouvoir, vous êtes donc un sujet, subjectus, vous êtes un sujet ottoman. Maintenant, vous devenez un citoyen turc. Alors là, ça sent brûler. Est-ce que les Grecs, est-ce que les Arméniens sont turcs? Voilà. Donc l'entrée dans la modernité, c'est le génocide des Arméniens, par exemple. Ça va générer aussi, bien sûr, certaines formes d'antisémitisme, donc, puisqu'on évoquait tout à l'heure avec Madame Delaine du Juif, un livre donc, qui est ressorti ces temps-ci. Il est clair que vous avez une logique qui peut aller jusqu'au génocide dans l'identité quand elle prend une dimension raciste. Et je rappelle que le passage au racisme au XIXe siècle, hein, ça a été une modernisation de l'ancienne haine du juif. L'ancienne haine du juif est religieuse, c'est l'anti-judaïsme. Il en reste évidemment énormément de choses quand on voit qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, on est plus religieux que jamais. Bon, Hamas, bon. Vous pensez que dans ma jeunesse, les militants disons, bon, qui était déjà palestinien, on va dire, oui, clairement palestinien, s'appelait par exemple Georges Habash. Donc Georges, ça veut dire que c'était un chrétien, bon, devenu marxiste, léniniste, tout ce que c'est. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est les laïcs, hein, les partis socialistes arabes ont été créés très souvent, entre autres, par des juifs. Le nationalisme égyptien comprenait une proportion non négligeable de juifs. Le messianisme, hein, le peuple égyptien, bon, ben on est quand même très loin de ça. Donc, l'antijudaïsme, oui, qui devient, par modernisation, l'antisémitisme, parce que, pour simplifier, il n'est plus nécessaire de croire en Dieu pour continuer à haïr les juifs. C'est ça qui est génial. Pourquoi ? Parce que on retire Dieu, mais on a la race. À la place de l'usurier juif d'Alsace, vous aurez Rothschild. Ça est imposé. Je terminerai sur ce qui, dans le temps et dans l'espace, peut susciter des discussions et des réflexions qui sont dans ces livres-là. À travers peut-être tout simplement deux exemples. Dans le temps, l'exemple du fascisme, justement. Pour moi, le fascisme se situe dans la grande famille populiste, donc il va occuper ce large espace qui correspond grosso modo à l'entre-deux-guerres. Je pense que ça c'est un débat entre historiens très anciens, mais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer qu'il n'y a pas un lien assez fondamental avec la révolution d'octobre. Je pense que, et c'est très clair chez le premier fasciste qui est Mussolini, il y a l'idée qu'il faut se servir des leçons de la révolution d'octobre, mais il faut faire le contraire. Et c'est d'autant plus facile que Mussolini, contrairement à Hitler, vient de l'extrême-gauche. Parce que bien sûr, Benito Mussolini, d'ailleurs le prénom que lui a donné son père, significatif, c'était un prénom gauchiste. Puisque Benito, c'est un prénom d'origine espagnole, et ça, c'est un hommage à Benito Juárez, le Mexicain, qui justement a résisté au nom du peuple mexicain contre ces Français absurdes qui voulaient constituer un empire du Mexique. Donc Benito, donc la famille Mussolini est une famille de l'ultra-gauche. Et Benito, au 1er août 1914, il est toujours le leader de l'aile la plus à gauche du Parti Socialiste italien. Il n'y a pas de Parti Communiste, évidemment, donc on ne peut pas être plus à gauche, sauf les anarchistes, que Benito Mussolini. Donc Benito Mussolini vient de la gauche, et ce qui est évidemment intéressant, c'est que cette fameuse synthèse, droite radicale dans un style de gauche radicale, il en est un superbe exemple. Parmi les fondateurs, d'ailleurs, du fascisme, les faisceaux, 1918-1920, vous avez une proportion non négligeable de syndicalistes, révolutionnaires, qui vont devenir des caciques du régime. Donc c'est ça qui évidemment est fondamental pour comprendre la spécificité du fascisme. Pour continuer à perturber les perspectives, je signale, parce que c'est un pas de côté par rapport à ce que je dis, mais ça va dans le même sens, sur toujours la modernité de ça, le fascisme c'est évidemment une invention moderne, je vous signale que le 19e siècle, il a inventé, entre autres, si on peut dire, le socialisme et le libéralisme, enfin, même s'il y a des origines plus anciennes. Le 20e siècle, qu'est-ce qu'il a inventé? Le fascisme. La grande invention du 20e siècle, c'est le fascisme. Ça représentait une période relativement courte, avec des conséquences infinies, mais c'est une invention du 20e siècle. Eh bien, le premier intellectuel fasciste, qui est donc italien, Hitler, à cette époque-là, c'était qu'un obscur disciple de Mussolini, pour lequel il a une grande admiration, qui va décliner peu à peu, jusqu'au renversement des rapports de force entre les deux, comme vous savez sans doute. Donc, le premier intellectuel fasciste italien, premièrement, c'est une femme. Deuxièmement, elle est juive. C'est la maîtresse de Mussolini, Margareta Sarfatti, qui publie au lendemain de la Première Guerre mondiale un livre qui s'appelle Dux. Dux, D-U-X. Duce. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, entre parenthèses, le fascisme italien n'est pas antisémite au départ. D'ailleurs, la proportion des juifs dans le parti national fasciste est supérieure à la proportion des juifs dans la société italienne au départ. En revanche, Hitler est tout de suite anti-juif. Donc il y a des modalités comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le modèle deviendra le modèle hitlérien et que finalement Mussolini s'alignera, y compris pour l'antisémitisme. Bref, le fascisme est en rapport dialectique avec la révolution d'octobre. Il reprend des éléments. Par exemple, la mobilisation des jeunes dans des mouvements de jeunesse spécifiques, la mobilisation des femmes dans des mouvements en uniforme, dans des mouvements de jeunesse spécifiques, s'est empruntée à la révolution d'octobre et transformée en organisation fasciste. Évidemment, vous avez une sorte de jugement de Dieu, d'Ordali, 1945, exit le fascisme. Donc le terme est discrédité, mais la chose, elle peut ressurgir, et va ressurgir sous la forme, atténuée ou pas, du populisme d'aujourd'hui. Remarque sur le temps. Remarque sur l'espace. Vous l'aurez constaté, la France joue un rôle quand même non négligeable à des moments clés. Pour simplifier, nous avons quand même, on va dire inventé en tous les cas, nous avons réussi à mettre sur le pavois le premier mouvement populiste au sens moderne, qui est l'appel au peuple du général Boulanger. Ça a d'ailleurs été un échec politique, donc c'est intéressant. Deuxièmement, nous avons, on va le dire, inventé la démocratie autoritaire moderne, Napoléon Bonaparte, l'oncle. Hein, c'est pas négligeable. Ça amène à réfléchir sur ce cher et vieux pays. Voilà. Puisque ça s'est sorti en septembre, donc ce n'est qu'un petit tract, et ça consiste à dire, et quand même, quand est-ce que les Français vont sortir de leur querelle interne pour considérer leur originalité par rapport aux pays voisins, au pluriel. Parce que ça saute aux yeux, ce soir, je ne remonte pas les siècles, là, ni même jusqu'à Napoléon Bonaparte, que nous avons les institutions politiques les plus autoritaires de l'Europe occidentale, identifiées à l'Union européenne, peu importe. Prenons simplement les pays riverains. Belgique. Luxembourg, dont on ne parle jamais, qui est passionnant. République fédérale d'Allemagne. La Suisse. C'est l'anti-France, la Suisse. C'est l'inverse. Vous prenez la France, vous retournez la France comme un sablier, vous obtenez la Suisse. Je me permets de faire, non pas un éloge, après, je conclue que de toute façon, les Français ne voudront jamais être Suisses. Donc, pas de risque. Ouf, oh là là, ils ne seront jamais Suisses. Sauf que la Suisse, et c'est ce que c'est que la démocratie participative, par exemple. Et c'est ce que c'est que le centralisme. En Suisse, il n'y a aucun chef d'État. Est-ce que vous imaginez un pays qui n'a pas de chef d'État? Ça s'appelle le Conseil fédéral, 7 personnes. C'est le résultat subtil d'un siècle et demi de discussion. Parmi ces 7 personnes, il y a les représentants des 5 partis les plus représentatifs, qui sont obligés de travailler ensemble. C'est ça le chef d'État. Vous expliquez ça à un Français, il ne peut pas comprendre. Mais vraiment pas, il n'y a pas de chef d'État et que ça fonctionne. La démocratie participative, je vous signale en Suisse, qu'elle existe depuis un siècle et demi. J'ai une lointaine cousine qui est citoyenne suisse, du canton de Zurich, ça c'est du sérieux. Quand même. C'est pas comme, c'est, hein, comme le branquignol de Genève, hein, non, ça c'est du sérieux. Bon, elle reçoit 4 fois par an des volumes comme ça de votation. Et ce ne sont pas des textes secondaires, comme on dit souvent. Il y a des textes secondaires, il y a des textes fondamentaux. Et c'est soumis à la votation du peuple suisse. Vous imaginez, 4 fois par an. Et c'est remarquable ces bouquins, parce que d'abord c'est très épais, vous avez tous les textes qu'on propose au peuple, avec les arguments pour, les arguments contre. Ah bah oui, vous pouvez voter oui pour tel et tel adhérent. Démocratie participative. Tout le monde se moque des Suisses, les banquiers suisses. Oui, mais franchement, c'est la paille et la poutre, hein, si je peux me permettre. Alors, nous, on a des grosses poutres dans l'œil, et puis on dit, ah bah oui, les Suisses, ils sont... Bon, passons.
Donc, et les Suisses votent, enfin,
ils votent, mais c'est vrai que le taux d'abstention commence à augmenter. Enfin bon, c'est pour dire qu'on continue avec Italie, Espagne, on s'arrête là, puisque le Portugal n'est pas un pays riverain. Nous avons les institutions les plus autoritaires de tout ce panel, quand même. Donc ça fait réfléchir. Et ça fait réfléchir à, disons, le poids de l'histoire, hein, ce que je viens de dire, le fait qu'il y a eu cette dictature française qui s'appelait Vichy. Alors là, évidemment, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, ils ont eu leur... Mais justement, après 45 et après 75, côté espagnol et en portugais, vous avez l'installation de démocratie parlementaire, de régime parlementaire. Nous avons le régime le plus faiblement parlementaire, le plus fortement présidentiel. Et ce qui est génial, c'est que nous avons rétabli le suffrage universel pour l'élection du président. Réforme de 62, réalisée en 65. Ce qui est à la fois, vous comprenez bien l'ambiguïté, c'est comme l'article 1, je dissous l'Assemblée, l'article 2, je rétablis le suffrage universel. C'est la même ambiguïté, c'est-à-dire que c'est évidemment une concession démocratique extraordinaire. Cher peuple, le président est élu par toi maintenant. Oui, mais ça donne un pouvoir symbolique et une autorité symbolique, et plus que symbolique, considérable à celui qui, par rapport à un parlementaire qui n'aura jamais été élu que par la région de Nogent-le-Rotrou, c'est rien à côté d'un président élu par le peuple. Bon, bref, il faudrait revenir là-dessus, mais ça sera plutôt l'occasion de la discussion qui commence. Je fais circuler ça.
Oui, ce que vous avez expliqué, ça m'a fait comprendre des itinéraires dont je ne saisissais absolument pas la logique. Vous avez fait allusion à Rochefort. Un itinéraire un peu...
Oui, parce que je reviens sur la question, vous pourriez être choqué, disant, mais alors en quoi est-ce que c'est populaire d'être anti-juif? Mais c'est que c'est populaire. Oui. et surtout, Charles Maurras, qui lui ne vient pas de cette famille-là, qui est vraiment de l'extrême droite classique, Charles Maurras dit clairement, c'est génial l'antisémitisme. Parce qu'au fond, Maurras, quelque part, c'est un agnostique. D'abord, il ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire pour ça qu'il va être condamné, finalement, mais assez tardivement, dans les années 20, par le Vatican. Parce que les démocrates chrétiens disent, très Saint-Père quand même, condamnez-le. Vous voyez bien que son système n'a pas besoin de Dieu. La monarchie de Maurras n'a pas besoin de Dieu pour fonctionner. Bon. Mais par ailleurs, pour lui, l'antisémitisme, c'est fonctionnel. Ça permet de saisir le peuple dans ses intérêts, dans ses sentiments profonds. C'est donc le constat que l'antisémitisme est assez populaire. Pour qu'on dise, ah, pour avoir une image populaire, pour ne pas dire de gauche, soyons antisémites. Ça, aujourd'hui, enfin, plutôt maintenant, on le comprend mieux depuis quelque temps. Mais j'aurais dit ça en 1950, on m'aurait dit non, mais...
Mais alors, comment est-ce qu'ils intègrent la dimension capitalisme communiste ou...
Voilà. Alors, vous aurez toutes les nuances. Par exemple, ce sera intéressant de voir comment évolue le président de la nation argentine, puisqu'il se présente comme libertarien. Bon. Mais pour eux, ce n'est pas une question. La question, c'est qu'il y a un État fort, dans ce côté de droite, entre guillemets, et par ailleurs qu'on favorise la nation, les nationaux, etc., dans les arbitrages. Donc ce n'est pas la structure économique qui va compter. On va éventuellement attaquer... Alors il y a deux choses. On va attaquer tout ce qui va être capitalisme étranger, ou supposé étranger, juif, puisque supposé étranger, bon, déjà. Et d'autre part, il y a une notion qui est typique du fascisme, pour simplifier en tous les cas de l'ambiance fasciste. Après la Seconde Guerre mondiale, quand il restait plus grand-chose du fascisme, on paierait des survivants à ce qu'ils utilisent cette terme, la ploutocratie. C'est-à-dire le pouvoir de l'argent. Donc ça a un côté un peu moralisateur chrétien, quoi, quelque part. Le pouvoir de... Enfin, catholique, pas chrétien. Le pouvoir de l'argent. Donc vous avez le pouvoir de l'argent, il vaut mieux être militaire que... Bon, peut-être plutocrate, mais les plutocrates, s'ils sont nationaux, ça va. Ça va. Ça va. C'est d'ailleurs ça l'ambiguïté de ces capitalistes qui soutiennent Hitler. C'est une variante aggravée de ces conservateurs monarchistes qui soutenaient Louis-Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire, ce sont des gens qu'on va manipuler. Ce sont des marionnettes. J'ai cité le libertarien, moi ce qui m'a frappé c'est que c'est évidemment un libertarien, je dirais, de droite, parce qu'il y a des libertariens de gauche qui sont pour l'avortement, par exemple. Donc lui, il ratisse aussi du côté, alors là, de la grande tradition de l'extrême droite latino-américaine ou catholique, tout ce qu'on veut. Mais c'est intéressant qu'on puisse dire ben, il est libertarien, parce que ça c'est un peu inédit. C'est, enfin, je veux dire que le populisme va absorber des éléments, on sent bien que le libertarisme est assez porteur en ce moment. Vous avez ces leaders charismatiques qui sont des héros de la télévision, c'est un peu différent d'un général comme le général Boulanger, le général Perron. Mais l'essentiel est conservé. La popularité, ça a même été ma surprise, que très sincèrement, je ne regardais pas attentivement l'histoire récente de l'Argentine. Et quand j'ai entendu libertarien, j'ai interprété ça. Alors, libertarien entre guillemets de gauche, c'est-à-dire liberté des mœurs. Et puis je me dis, ah, c'est comme un libertarien d'un genre un peu particulier. Quand vous avez un pouvoir personnel, un culte de la personnalité, un pouvoir personnel, la dimension entre guillemets pathologique devient absolument capitale. Ouais. Il y a eu des tonnes de livres sur Staline à ce propos. Hein. Voilà.
Est-ce que le pouvoirisme est un essai de
populisme ? Oui, c'était... Alors, justement, c'était d'abord à la française. Oui. Ça pouvait paraître, d'ailleurs, assez rétro très vite, hein, puisque ça, c'est comme le boulangiste, ça n'a pas tenu. Mais en même temps, ça annonçait des formes plus récentes dans d'autres pays de mouvements qui ont une assise sociale. J'avais, dans ma jeunesse lointaine, travaillé sur ce qu'on appelait les dorgéristes. Les dorgéristes, le leader s'appelait Dorgère, etc., et il a pensé, pendant 2-3 ans, prendre le pouvoir en se fondant sur la paysannerie. En disant, il y a une, par exemple, il y a une ceinture rouge autour de Paris, bon, les socialistes et les communistes, là, il y aura une ceinture verte qui va les étouffer, etc. Donc vous avez un mouvement clairement populiste, avec un leader qui s'affirme, et qui sera élu, après la guerre, député poujadiste. Donc effectivement, qu'il y ait des catégories socio-professionnelles, bien sûr, par...
J'avais une question, oui. Une remarque sur les corps intermédiaires, parce qu'on sent bien que c'est ça, ah. C'est là où ça bloque. Et en allant au-delà de ça, sur la constitution actuelle de la Ve République, poussée en plus par, à mon avis, des initiatives un peu malheureuses, type synchronisation des calendriers,
ouais, oui.
Est-ce que c'est pas ça dont aujourd'hui on voit bien les craquements un peu à droite à gauche sur le fait que le président lui-même, visiblement, ne croit pas beaucoup aux corps intermédiaires, ce qui est un peu embêtant
Il est clair que dans... un modèle populiste pur et parfait qui tend vers la dictature, mais qui n'y atteint pas nécessairement. Hein, vous avez une volonté d'instrumentaliser les corps intermédiaires qui peuvent être instrumentalisés. Dans le cas de Perron, c'était le syndicat. Il faut bien voir que ce général, avait tellement une image de gauche, effectivement, d'ailleurs ça s'est vu par certaines décisions, réformes sociales prises en Argentine, qu'il y avait trois instruments très modernes, donc on est dans les années 40, 50, 60, qui perdra le pouvoir, il y reviendra une extrémisme. Bon. Premièrement, un parti, qui s'appelait, parti travailliste au départ, est devenu justicialiste. Justicialiste, c'est dangereux. Donc la justice sociale, bien sûr, justice sociale. Deuxièmement, la CGT argentine. Quand vous dites CGT en Argentine, ça veut dire péroniste. Hein. Encore aujourd'hui, enfin, c'est justicialiste. Et troisièmement, sa femme, Eva, Evita. Donc, et c'est très moderne, là aussi. Hein. Parce que la meilleure propagandiste, c'était Evita, Evita Perón, qui est encore un mythe important en Argentine. Alors évidemment, le nouveau président, il a été élu contre, hein, contre les justicialistes, qui étaient devenus peu à peu, bon, une sorte de centre-gauche, avec des contradictions internes, parce qu'ils avaient toujours une aile gauche qui les poussait, syndicaliste, qui les poussait, hein, bon. Donc le populisme peut ressurgir sous d'autres formes, ça c'est clair. Donc oui, les corps intermédiaires, c'est un professeur de sciences politiques, il s'appelle Maurice de Verger, qui avait inventé la formule pour qualifier la Ve République, une monarchie républicaine. Alors, je trouvais d'ailleurs que c'était, pour un professeur de droit constitutionnel, c'était quand même, c'était un peu journalistique, hein, des monarchies républicaines, mais enfin, sur les plateaux télé, on peut alterner et dire, oui, la France est une monarchie républicaine. On a quand même des institutions par rapport aux institutions des pays voisins. Voilà. Et évidemment, c'est historique. Hein. Avant Napoléon Bonaparte, vous avez la tradition monarchique française, vous avez le choix du catholicisme et pas du protestantisme, enfin, vous avez une quantité d'étapes qui permettent d'interpréter le destin singulier de ce pays qui s'appelle la France, de ce cher et vieux pays. Phrase du général de Gaulle. Voilà.
Donc je voudrais savoir si pour vous, les démocraties non autoritaires, et pour elles, il est minuit moins 5, ou il est minuit 5.
D'une part, la tendance populiste actuelle progresse un peu partout. Et d'autre part, vous avez des facteurs que je qualifierais de physiques et des facteurs que je qualifierais de géographiques, disons géopolitiques, qui poussent dans le sens de l'autorité. Les facteurs physiques, c'est la prophétie écologiste. Alors, prophétie, c'est pas un jeu de mots de valeur, c'est un constat. Vous avez quand même une sensibilité politique, on va l'appeler écologie politique au sens large d'ailleurs, qui ne comprend pas que les partis, mais les sensibilités diverses et variées des intellectuels, qui dit, voilà, apocalypse, bon, catastrophe, nous allons dans le mur, sauf si... Donc c'est un discours prophétique, là, classique, hein, en termes de prophétie. Bon. Si cette prophétie est réalisée, franchement, s'il y a le feu au lac, comment est-ce que ça pourrait se traduire par le développement de la démocratie participative ? Voilà. Donc, mais ça, c'est une hypothèse. Je ne vois pas. Je ne vois pas le début de l'esquisse de commencement de ça. C'est-à-dire que ce sont des régimes autoritaires qui accoucheraient de ça, par le conditionnel. Et puis, vous avez la géopolitique, qui fait que, dans certaines régions du monde, évidemment, c'est la tendance autoritaire qui soit est bien enracinée, mais qui se réenracine. Regardez l'échec des, entre guillemets, révolutions arabes. Oui. Avec la complicité de quelqu'un comme Poutine, dont on voit bien la logique, l'intérêt que M. Poutine a à ce que bon, la Syrie ne devienne pas... Alors, ce que je n'ai pas indiqué au passage, c'est que, effectivement, vous avez des tendances récentes qui sont impressionnantes quand vous avez des leaders, alors, soit complètement populistes, soit de droite nationaliste, on ne va pas tout mélanger. Il y a deux exemples qui m'impressionnent beaucoup, parce que là aussi, franchement, on est impressionné quand, grosso modo, on se retourne vers son adolescence, on se dit, mais j'aurais jamais imaginé que... Bon, j'aurais jamais imaginé que l'Inde serait aujourd'hui dirigée par un populiste qui s'appelait M. Modi, qui fait son beurre, si j'ose dire, de la haine du musulman. Parce que c'est l'inverse de ce que disaient les fondateurs de l'Inde moderne. Le parti du Congrès disait exactement le contraire. Parce que c'est pas, faut pas simplement dire « Ah, Modi, c'est un populiste ». Non, mais le plus effarant, c'est que les fondateurs de l'État indien, dans les années 1948-49, etc., disaient, Nehru et les autres, nous sommes tous indiens, nous ne sommes pas hindous. Donc, on tendait la main, et puis d'ailleurs, on faisait exprès, aux musulmans, qui sont des millions, hein, en Inde, même en retranchant le Pakistan, qui sont des millions, on tendait la main aux musulmans, aux chrétiens, aux sikhs, etc., et aux très rares bouddhistes. Systématiquement, pendant longtemps, le chef de l'État, fonction symbolique, de façon anglaise, le chef de l'État indien était musulman. Justement, le Parti Congrès disait, ben oui, on est... Maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est impressionnant. Et M. Modi a été réélu triomphalement. Puis deuxième exemple, bah, c'est M. Netanyahou. Parce qu'en 2018, il finit par faire voter une loi qui dit que Israël, ce qui n'était pas le cas jusque-là, est l'État-nation du peuple juif. Alors, qu'est-ce qu'on fait des Arabes israéliens? Je ne parle même pas, bien sûr, des Gazaouis. Donc, M. Netanyahou dit le contraire des fondateurs de l'État d'Israël. Donc, on en est là. Je ne vais pas me projeter sur l'avenir, mais pour l'instant, la projection n'est pas...
L'utilisation de la caractérisation populiste, Mélenchon a très vite été traité de populiste.
Ouais.
Alors qu'un tribun comme Georges Marchais, on ne disait pas populiste. Alors que lui, franchement, c'était la caricature pour moi.
Ouais. Alors, évacuons rapidement le cas Georges Marchais. D'abord parce qu'on est dans une autre configuration, c'est avant la chute du mur. Parce qu'il est évident que tout ce que je dis est extraordinairement accéléré par la chute du mur. Grosso modo, la science politique a horreur du vide. Et donc, il y a un grand vide qui tient à cette grande utopie de 72 ans et quelques. Et le populisme remplit le vide. On va simplifier, mais c'est un peu ça. Bon. Y compris chez des électeurs qui jadis votaient communistes. J'évacue rapidement Georges Marchais. Jean-Luc Mélenchon... J'ai pris la précaution de maintenir une définition qu'on ne partage pas ici et là non plus, parce que je considère que c'est une droite radicale en bilan. C'est un peu comme Général Boulanger, c'est un général de gauche. Hein. Bon, oui, mais bon, Benito Mussolini, il vient de l'extrême gauche. Ben, oui. Donc, la cristallisation, la position politique finale, enfin initiale pour et finale, initiale quand c'est cristallisé, se situe en droite et même une droite extrême. Ce qui veut dire que, je ne récuse pas, je dis que c'est très intéressant de voir des auteurs spécialistes de l'Amérique latine, Chantal Mouffe, etc., Ernesto Laco, qui disent qu'il faut créer un populisme de gauche. Ça, c'est dit explicitement, à partir des années 2000. Et moi, j'y vois, je diagnostique que c'est la preuve de l'effondrement de la référence marxiste. Parce que quand on en est réduit à dire, ah non, on ne peut pas trouver dans Marx, dans Lénine, voire même dans Trotsky, hein, les ressources. Il faut capter quelque chose qui vient là vraiment d'ailleurs, même d'en face, pour le retourner positivement en disant « je fais du populisme de gauche ». Alors là, je ne parle pas de Mélenchon, je parle déjà de ces intellectuels latino-américains ou proches des latino-américains qui disent « mais il faut faire du populisme, vive le populisme, mais un populisme de gauche ». Sauf que c'est bien la preuve qu'il y a une sorte, il y a une étoile qui est en train de régréger là, des satellites. Qui bon. Quant à Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est un leader de gauche radical. Dans une tradition de gauche radicale. C'est pas un social-démocrate, par exemple. Alors, après, la dimension très récemment mise en avant de l'antisémitisme, c'est pas contradictoire avec toute une partie de... Dans mon livre de l'Aine du Juif, je rappelle que l'antisémitisme, pas l'antijudaïsme, naît à gauche. Parce que c'est moderne, parce que c'est athée, parce que c'est social, pour ne pas dire socialiste. Et donc, il faut quand même toujours rappeler que celui qui a inventé le mot et la chose, en ce sens qu'il a inventé le mot antisémitisme au sens négatif, il y a un intellectuel juif qui avait commencé à inventer quelques années auparavant antisémitisme dans un sens négatif, en disant « nous sommes victimes de... » Ça n'avait pas marché. C'est maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu ça, ce texte-là. En revanche, ça a mieux marché en Allemagne, hein, pas en Autriche, là, justement, ni en France, avec Wilhelm Marr, Emma Deuzer, qui a inventé le mot antisémitisme comme programme politique positif, bien sûr. Et mieux que ça, quelques temps après, il a créé la première ligue antisémitique. Et qui était Wilhelm Marr. Alors il y a eu enfin un anglo-saxon qui a consacré une étude érudite sur Wilhelm Marr. Ben, Wilhelm Marr, c'est le type exact de l'intellectuel d'ultra-gauche. Athée, matérialiste, hegelien de gauche, voire de l'ultra-gauche, et il accouche de ça. Donc c'est intéressant. Après, l'histoire de se complique. Alors, ce qu'on sait aussi bien maintenant, c'est que parmi les fondateurs du socialisme au XIXe siècle, il y a d'ailleurs l'ambiguïté, évidemment, de Karl Marx, bon, mais laissons ça en considérant que c'est une catégorie spéciale, mais Fourier, pas mal, Proudhon énormément, dans des textes du fort privé. Hein. Il appelle à l'extermination des Juifs, quand même, Proudhon. Il y a Pierre Leroux. J'ajouterais Blanqui. Puisque quand je disais il y a 50% de socialistes communards à peu près aux côtés de Boulanger, bon, il y a Rochefort qui est Rochefort, qui est très populaire, l'intransigeant, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, intransigeant, c'est radical. Hein. Il y a donc les blanquistes, parce que les plus engagés auprès de Boulanger sont des blanquistes. Alors, le mouvement blanquiste se casse en deux. Il y a ceux qui deviennent anti-boulangistes, mais il y a ceux qui deviennent boulangistes. Et Blanqui va préfacer l'édition posthume d'un texte de Gustave Tridon, qui est un jeune blanquiste, qui est un texte qui dit que l'histoire du monde, c'est la lutte entre les Aryens et les Sémites. Et que les méchants, ce sont les Sémites. C'est un communard. Alors après, vous avez l'investissement des Juifs dans le mouvement socialiste, messianisme. Et puis, vous avez, dans le cas de la France, l'affaire Dreyfus, et plus généralement l'idée que les antisémites sont des dangers pour la démocratie républicaine, par exemple. Pour la France, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il apparaît clairement que les antisémites veulent un changement de régime. Donc des gens comme Scheurer-Kestner, etc., alors ils ne sont pas initialement, je pense, anti-juifs, mais ils ont très clairement vu que là la République est en danger. Donc il y a ceux qui sont les victimes. Bon, Léon Blum est un admirateur de Barrès, il n'a jamais d'ailleurs nié que, après la mort de Barrès, il rend hommage à Barrès, parce que ça c'est très Blum, c'est-à-dire qu'il va dire franchement ce qu'il pense, à savoir que j'ai réédité plusieurs textes de Blum, dont un récemment que je vous recommande, qui s'appelle « Le dernier mois », que je ne connaissais pas, un texte qui est passé inaperçu, où il parle de son dernier mois entre Buchenwald et la libération par les Américains. Vous serez étonné, hein, « Le dernier mois ». J'avais préfacé la réédition chez Gallimard de « Souvenirs sur l'affaire » de Léon Blum. 1935, donc avant qu'il fasse le grand plongeon dans l'histoire avec un grand H, ou avec sa grande H, comme disait Perrequin. Donc, 35, il apprend la mort du capitaine Dreyfus. C'est l'été, et il a le temps, chez ses amis Grunebaum-Balin, d'écrire ça, comme ça, ses souvenirs de l'affaire Dreyfus. Et il raconte comment il va rendre visite à Barrès pour une pétition capitale des Dreyfusards. Donc il pense que Barrès, parce que c'est un honnête homme, etc., va signer. Et parce que Dreyfus est une victime. Mais Blum a l'honnêteté de le dire. Et d'être très troublé de ce que Barrès, fuyant, puis quelques jours plus tard, clairement, choisit son camp. Et il y avait une très belle formule là-dedans de Blum, puisque Maurice Barrès, c'était l'idole de l'avant-garde littéraire française. C'était le prince de la jeunesse, tout ce qu'on voulait. Circulant entre monarchisme, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas, un individualisme radical. Et Blum avait dit, en parlant de ses camarades admirateurs de Barrès, juifs ou pas juifs, nous avions tellement senti comme lui qu'on supposait qu'il allait penser comme nous. Ça, c'est assez beau. Il se trouve que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ce qui paraissait déterminant chez beaucoup de Dreyfusards, c'est que là, bon, le danger atteignait les institutions et qu'il fallait faire bloc. Et moi, je trouve que l'un des personnages les plus intéressants dans tout ça, c'est Picard. Parce que franchement, Dreyfus n'en serait pas sorti sans Picard. Parce que Mathieu Dreyfus fait ce qu'il peut, mais je veux dire, il y a un plafond de verre, hein. Il faut quand même les preuves, c'est Picard. Or, Picard, ce qui est intéressant chez Picard, c'est au départ, c'est un officier français, bon, sans doute républicain, mais anti-juif. Donc, c'est ça l'histoire, la société. C'est qu'il faut des Picards qui évoluent en fonction de considérations éthiques, qui vont contre leurs intérêts, parce que toutes les portes se sont fermées devant Picard. Donc voilà, et il faut tout ça pour que ça bascule. Mais l'investissement, évidemment, de juifs dans les mouvements de gauche, leur parti radical, hein, Jean Zay, Pierre Mendès France, bon, et évidemment dans le mouvement socialiste, et ensuite dans le mouvement communiste, ça va de soi. Donc, ce qui accroît l'antisémitisme de la droite et de l'extrême droite.
Est-ce qu'on peut vous demander pour quel sujet vous allez revenir?
Revenir, je ne sais pas, il faut que je termine le livre pour Pierre Nora, la bibliothèque des histoires chez Gallimard. C'est un sujet relativement dépassionné par rapport à tout ça, mais qui a un rapport avec Qu'est-ce qu'une nation, qui est un peu traité dans Qu'est-ce qu'une nation. Ça s'appellera, ça s'appellera, j'espère, emblème, monument, rituel, au singulier. C'est-à-dire comment les sociétés politiques modernes, du siècle des Lumières, entre guillemets, jusqu'à nos jours, utilisent, instrumentalisent, etc., l'emblématique, la monumentalité, le rituel. Et à l'échelle mondiale, parce que c'est vraiment très, très intéressant de voir comment évolue. J'appelle l'histoire des politiques symboliques.
Ah ben oui, le film que vous avez vu l'autre soir rentre complètement dans vos sujets.
Tout à fait. Très beau documentaire de Jérôme Prieur sur les statues de monuments aux morts. Il y a toute une tradition d'analyse des monuments aux morts en France depuis Antoine Pro, justement. Oui. Antoine Pro, il y avait aussi un personnage un peu ubuesque au même moment, qui collectionnait absolument tout ce qui concernait les monuments aux morts. Il y a eu d'autres travaux locaux, d'histoire locale. C'est très intéressant. Parce que là, ça rejoint la démocratie, pas autoritaire, la démocratie patriotique, qui est que les monuments aux morts jusqu'à la guerre de 14-18 sont des monuments soit généraux, à une patrie qui s'est défendue, parfois a été battue, comme en 70, hein, soit c'est une allégorie, soit on mentionne la nation, ou parfois la monarchie, bien sûr, de façon très générale, ou tout au plus, Arc de Triomphe, les généraux. On n'inscrit pas le nom des soldats. Et donc le triomphe de la démocratie, je veux dire, hélas, c'est qu'on va inscrire tous les noms. C'est pour ça que c'est quand même le type de monument le plus violent qui existe aujourd'hui, quand on voit dans un village de 250 habitants le nombre de morts, beaucoup plus de morts qu'en 39-45. Donc c'est impressionnant. Et que chacun ait son nom, ben ça c'est parce que la France était la Troisième République, hein. C'était la France, la démocratie républicaine.